Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors pour cet avant-dernier épisode de la saison, et le oui. 41e épisode, nous avons une invitée, une jeune voyageuse et aussi une de nos auditrices, c'est Héloïse qui nous revient de Chine. Bonjour Héloïse.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Héloïse.
Donc Héloïse, merci de venir à Radio Alpa et Asialogie pour nous raconter en exclusivité et en détail ton voyage, plutôt hors des sentiers battus. Tu as fait un long périple, Héloïse, et nous avons bien hâte d'avoir tes impressions sur ces villes chinoises emblématiques, sur ces belles régions, mais finalement des régions qui sont peut-être pas très connues des Français.
Moins.
Que sont Chengdu, les villes, hein, Chongqing, Kunming, Lijiang et Dali. Mais avant ça, d'abord tu vas te présenter, Héloïse. Alors, tu t'appelles comment, Héloïse ?
Héloïse ? Je pense qu'on s'en doute, je m'appelle Héloïse et du coup j'ai 23 ans, voilà.
Et t'as 23 ans. Donc très jeune, Héloïse, hein, pour partir. Enfin si, c'est, on peut partir à tout âge, mais c'est quand même jeune pour faire un voyage de ce type-là. Alors pour commencer, dis-nous, Héloïse, ce qui t'a donné envie de voyager en Chine. Et quel était le type de voyage que tu as fait, avec qui, combien de temps et comment tu es partie là-bas.
En
voilà,
fait, on
un
veut
petit
tout
peu
savoir.
Le cadre.
Voilà, c'est ça, le cadre.
Oui, on veut tout savoir.
Okay.
Alors, pour le contexte, donc, en général, j'aime voyager. Ça, c'est une passion qui m'a été transmise de ma famille, voilà.
Oui, c'est dans la famille.
Oui, ça, c'est dans la famille. après, bon, effectivement, du coup, j'aime l'Asie vu que j'écoute l'émission.
Merci Héloïse, évidemment. d'une fidèle auditrice.
Et alors pour le contexte, j'ai des amis qui se sont mariés récemment et ce sont tous les
des
deux
amis asiatiques.
Exactement, ils sont
Chinois.
Tous les deux d'origine chinoise, voilà, c'est
d'accord.
Pour ça. Et dans la tradition, il faut faire un shooting photo du mariage. Et
oui.
Donc ils ont vu les prix en France, donc ils se sont dit qu'ils allaient plutôt le faire en Chine.
D'accord.
Et ils m'ont invité à participer, donc je suis partie avec eux, plus une autre amie à eux qui en fait a fait l'organisation.
Amie chinoise aussi ?
Oui, tout à fait, oui, j'étais la seule.
Donc tu es partie avec trois Chinois en Chine.
C'est pratique.
Pour un shooting photo pour un mariage.
Exactement. Et donc ils m'ont invité avec eux, et donc l'autre personne faisait l'organisatrice, c'est le couple de mariés. Donc l'objectif c'était d'aller faire les photos à Dali, et on s'est dit pourquoi pas prendre le chemin le plus long.
D'accord.
Donc,
vous avez. L'objectif, c'était de faire les photos à. Tu as dit Dali.
Oui.
C'est vrai, moi je dis Dali, mais tu as raison, Héloïse, c'est plutôt Dali.
Hein. J'ai pris des tics de langage un peu.
Oui, c'est bien, c'est des bons tics de langage. Donc, je précise que c'est dans le Yunnan. C'est ça, Héloïse.
Hein.
C'est dans une région du sud-ouest de la Chine. La région. Bon, on en parle tout à l'heure.
Et alors, on peut savoir. Pourquoi tu as choisi, parce que je t'ai dit que tu as fait un long chemin, qu'est-ce qui a fait que ce tracé-là s'est dessiné en fait, et le choix de ces villes et préparer ce voyage de cette forme-là ?
Donc au total, on est parti plus de 20 jours.
Oui,
et
c'est
bon
séjour.
On a fait long. Et on a commencé par Chengdu, Chongqing, donc Sichuan, et après on est allé par le Yunnan. Et en fait, au final, on a fait un peu les villes les plus touristiques, hein, en somme. Hein, on n'est pas très original. Hein. Et voilà, après Lijiang.
Oui, mais les plus touristiques, peut-être pas pour les Français, Héloïse,
ah, oui,
je
oui.
dirais. Touristiques pour les Chinois. Parce que tu es, enfin pour moi qui connais un peu la Chine, tu es quand même allé hors des sentiers battus.
Ok.
Chengdu. Alors pourquoi ? Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi avoir choisi ces villes ?
Est-ce qu'il y a une idée de base par
Chengdu,
rapport à ça ?
Qu'est-ce que c'est Chengdu ? Raconte-nous.
Alors Chengdu, donc du coup, comme c'était pas moi l'organisatrice, je n'ai pas choisi. Je me suis rajoutée vraiment dans le voyage.
D'accord.
Et je pense qu'ils ont choisi cette ville, pour la réserve des pandas.
Pour la réserve des
pandas.
Et
aussi parce que c'est quand même une ville qui est assez connue et c'est très beau aussi. Enfin,
c'est
quand
c'est
même incontournable, je pense, dans le Sichuan.
Donc c'est dans le Sichuan.
Okay.
Oui.
Sichuan.
La première région qu'on a fait, Sichuan. Et
donc
après, on a fait
Yunnan. Donc c'est au centre de la Chine, on peut dire ça ?
Oui, on peut dire ça, oui.
On peut dire ça. Donc est-ce que tu peux nous décrire Chengdu et puis les paysages autour ?
Alors, Chengdu, il faut vraiment s'imaginer, c'est vraiment une ville gigantesque. Alors, pas autant que Chongqing, mais c'est vraiment mégalopole avec beaucoup de gratte-ciel, etc. Et après, sinon, c'est assez dur en vrai à décrire pour des personnes qui ne connaissent pas la Chine, mais c'est vraiment grande ville, un peu comme Paris, etc. Mais à la version chinoise où on a beaucoup, on a quand même beaucoup d'arbres et des circulations à fond, comme on peut s'imaginer en Asie.
Et il y a beaucoup d'arbres.
Oui, oui, quand
beaucoup
même.
Beaucoup de verdure.
Oui, oui, il y a pas mal de parcs et tout. J'étais assez surprise. Et les arbres sont très bien taillés en nuages, etc. C'est très beau.
C'est très beau. T'as trouvé ça très beau?
Chengdu, oui. C'est pas la plus jolie ville que j'ai visitée quand même, mais c'est beau.
D'accord.
C'est beau.
Ça doit être impressionnant quand même, des grandes villes comme ça.
Oui, c'est très impressionnant.
Tout ce monde, tout ça.
La ville d'après, Chongqing, était encore plus gigantesque.
D'accord, on va y venir tout à l'heure. Alors.
Wow, ça, c'était encore plus impressionnant.
Mais t'as vu les pandas?
Oui, j'ai vu les pandas, bien évident.
Donc c'est omniprésent, les pandas, là-bas, l'idée du panda, tout ça. Il y a des pandas partout.
Chaque endroit où on pose ses yeux, à partir du moment où on est arrivé à l'aéroport, on voit un panda. C'est impressionnant. Partout, à l'hôtel, on sort dans la rue, il y a des pandas, il y a des personnes qui vendent des peluches de pandas. C'est partout, partout.
C'est vraiment l'image de marque de la ville et ils l'utilisent à fond, quoi.
C'est même sur le QR code du métro, c'est une D'accord. tête de panda dessus.
Ah oui, okay. Le QR code, c'est une tête de panda.
Oui, le QR code au milieu, il y a une tête de panda.
Bon, donc le panda est partout, du coup, j'imagine que tu es allé voir ce fameux centre de recherche des pandas.
Ça aurait été bête de pas aller les voir.
Bien sûr, alors vas-y,
on est allé à la base de recherche. Ouais. Donc la base de recherche, on arrive, ça fait un peu comme un parc d'attractions. Ouais. Mais après, ça a coupé direct et là, on est dans une espèce de bambouserie avec des grandes forêts de bambous. Et puis, on a des allées où il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde pour aller les voir.
Ça attire beaucoup de monde.
Oui, c'est blindé vraiment. Et donc, on essaie de se faufiler. Puis là, on voit les petits pandas qui sont généralement soit en train de dormir, soit en train de manger. Mais nous, on avait la chance, ils étaient en train de manger.
C'est ce que nous avait raconté Didier dans une autre émission. Mmh. Tu nous avais parlé de la vie
beaucoup.
Agitée des pandas qui passent leur temps à manger et dormir.
C'est ça. Comme en le gros. Bambou est assez pauvre, forcément, il faut en manger beaucoup pour avoir un peu de nutrition.
Oui, et donc ils sont vraiment mignons.
Ah oui, ils sont très mignons. Et il y en a même qui sont tellement mignons qu'il faut faire 2 heures de queue pour les voir. C'est les stars du parc. Voilà.
Ah oui.
On n'a pas pu. Hein. Trop long.
T'as pas pu.
Non. D'accord.
Moi, j'en ai jamais vu, Didier. Ça, c'est intrigue. Mais
moi, j'en ai vu à Beauval.
Il va falloir que j'aille à Beauval. Absolument.
Bon, c'était sympathique. Hein,
ou alors que je retourne en Chine et j'aille à Chengdu.
C'est peut-être la meilleure.
C'est ce que je préfère.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Beauval, c'est plus près quand même.
Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que j'ai pas réussi à voir de panda jusqu'à maintenant.
Voilà, encore une case à cocher.
C'est un de mes grands regrets. Bon. Et que retenir d'autre de Chengdu? Alors, le Sichuan, dans mon souvenir, on y mange épicé. Héloïse, qu'est-ce que tu peux nous dire de la cuisine du Sichuan? Il y a du poivre du Sichuan, il me semble.
Oui, il y a du poivre du Sichuan, même si c'est... En vrai, c'est vrai que le poivre du Sichuan, ça donne un côté pimenté, mais c'est plus parfumé, je trouve, que pimenté. Mais
d'accord.
Oui, ils mangent extrêmement épicé. Je me suis un peu entraînée avant de venir parce que j'avais peur de ne pas résister. Parce que comme je suis partie avec des amis chinois, eux, ils ont l'habitude du piment, moi, beaucoup moins. Et donc, il y a beaucoup de... En fait, quasi tout est épicé. Hein. Dès qu'on voit quelque chose, c'est rouge, mais rouge intense. Et ils mettent une dose de piment, c'est colossal. Mais moi, ça va.
Il y a le riz pour
Oui, exactement. Il y a le riz et...
Pour éteindre le feu.
Et il y a d'autres boissons quand même. Ils ont pas mal de boissons, donc boissons fraîches, on y va à fond. Mais après, il n'y a pas que des choses épicées quand même. Hein. Il y a des choses beaucoup sautées, etc. Wok. C'est pas forcé. Ils mettent pas quand même du piment partout.
Et ton meilleur souvenir culinaire donc de Chengdu?
Ah, c'est la... Pas, alors, de Chengdu... Ah, je ne sais pas. On a fait tellement de plats différents.
C'était un marathon culinaire.
Oui, vraiment. On allait 3 fois par jour au restaurant. Enfin, on commandait et tout. Je pense que c'était. On a mangé du canard dans un bouillon qui était très épicé. C'était très bon le canard comme ça. J'avais jamais mangé. Voilà.
D'accord.
Pour Chengdu, je pense que c'est ça.
Bon, Chengdu. Et puis après, tu es parti à Chongqing.
Oui.
Alors raconte-nous.
Alors ça, c'est vraiment là. C'est on prend. Encore une fois, une mégalopole, mais on fait fois 1000, quoi. C'est gigantesque. C'est tellement gigantesque que j'ai été beau dans les hauteurs de la ville, parce que la ville est construit sur un terrain montagneux. Ça fait que monter, descendre, monter, descendre.
D'accord.
Et même en étant en hauteur, on voit pas toute la ville. C'est vraiment immense. Et c'est un ensemble de gratte-ciel qui la nuit s'illumine avec des animations même dessus. Là, il y a des, je sais pas combien de ponts. Et il s'illumine aussi, c'est coupé par une rivière avec des bateaux.
Et c'est le Yangtze qui passe à Chongqing, le grand fleuve Yangtze.
Mais là, il faut quand même qu'on dise un peu plus aux auditeurs, parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte de la taille de la ville
oui.
et du nombre d'habitants.
Combien
de
d'habitants,
cette ville,
Héloïse ? Est-ce que en tu, fait, tu,
si je me souviens bien, c'est 32 millions d'habitants.
32
c'est...
millions d'habitants, oui.
On ne s'en rend pas compte. Hein.
Bon, c'est presque la moitié de la France.
Oui, non, mais voilà, c'est ça qui m'a. Abasourdi, quoi. 32 millions, c'est quasiment, j'y vais à la louche, mais la moitié de la France et le tout grand comme l'Autriche, je crois, en gros, cette ville.
Mais on ne peut pas voir la ville complètement.
Mais vous rendez compte,
grande,
enfin, nous, on n'est pas calibré là-dessus. C'est
non,
énorme.
Non, on n'est pas calibré.
C'est une ville-État.
C'est une ville.
Voilà.
Oui.
L'État, c'est que la ville. Enfin, que la ville est si grande.
C'est une ville qui, il y a quelques dizaines d'années, était complètement terne et sans intérêt. Elle est devenue très intéressante.
D'accord.
Est-ce que tu l'as trouvée intéressante comme ville,
oui,
Héloïse ?
Oui, dans chaque quartier, on sent que c'est très actif. C'est vraiment une ville qui ne dort jamais. Hein. La nuit, c'est
ah oui,
hyper actif. Tout est illuminé. Honnêtement, je me demande à quelle heure ils se couchent parce que...
Ils sont toujours dehors.
En fait, ils sont nombreux, donc ils se relaient.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et
on dit que c'est une ville cyberpunk. C'est la ville cyberpunk chinoise, Chongqing. C'est ce qu'on dit de Chongqing. Je ne connais pas, mais j'aimerais bien connaître. Et effectivement, je crois... Des fois, je mets quand même des petites limites à mes connaissances. Je pense que c'est bien le Yangtze et qu'on peut partir de Chongqing pour faire une croisière sur le Yangtze.
D'accord.
Ça n'a pas eu l'occasion.
Non, il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux.
Il y a beaucoup de bateaux, oui.
Il faut y retourner, mais il n'y a pas de problème.
On y retourne.
Au niveau urbanisme, c'est vraiment beaucoup de grands gratte-ciel et tout. Enfin, ça s'étire vers le haut, alors, c'est ça ?
Oui, ça s'étire vers le haut, mais en fait, des fois, dans les rues, on prend même des passerelles pour passer au-dessus de la route, ou des fois, on prend des ascenseurs pour descendre.
D'accord.
Parce que, en fait, la ville, il ne faut vraiment pas s'imaginer ça comme un plateau.
Ouais.
C'est vraiment comme des collines,
très
des montagnes. Ah oui, énormément.
D'accord.
Elle est sur plusieurs niveaux, du coup.
Exactement.
T'as des rues et des routes qui passent au travers les gratte-ciel à des étages différents.
Oui, oui, il y a beaucoup de ponts, routes qui passent au-dessus de eux-mêmes des routes. Enfin,
et est-ce que tu as vu ce fameux métro qui passe au travers d'un immeuble?
Et oui, tout à fait. On a fait
tout le monde fait des photos.
Ah, c'est le cliché,
terrible.
Mais c'est tellement
c'est très
étonnant.
Cliché. C'est très étonnant.
On a donné dans le cliché, donc oui, on a pris le métro, donc on était
celui-là
dans ce fameux métro.
D'accord.
Pour rentrer dans le bâtiment, et donc ce bâtiment est composé exclusivement de boutiques.
Ah
voilà.
Oui, oui,
c'est la vérité quand on descend
du
bâtiment.
C'est bien de le préciser.
Oui, 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 en fait, c'est la gare, c'est un arrêt, et après en dessous, c'est que des boutiques.
Okay.
On descend, et là, on était parmi effectivement les dizaines et dizaines de gens qui voulaient prendre la photo, donc on a pris aussi notre petite
photo. C'est normal, c'est le cliché, c'est tellement étonnant, un métro qui traverse un immeuble, quoi. Fin...
Oui. Et donc un centre commercial.
Oui,
faut
oui,
le
oui.
Dire.
Donc final, heureusement, il n'y a pas des
hauteur.
Gens qui vivent au cœur du métro.
Oui.
C'est mieux quand même.
Oui, oui. Les Chinois aiment bien leur confort. Hein.
Ben, ils
tu
ont
vas
bien
nous
raison.
En parler du confort.
Je crois que j'aimerais pas non plus. Hein.
Héloïse.
Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un vieux quartier aussi dont on peut évoquer là-bas, non?
Oui, oui, il y a un vieux quartier. Alors, je ne saurais prononcer le nom.
D'accord.
Mais il y a un vieux quartier qui sont les restes en fait de l'ancienne ville, parce que si Chongqing c'est une ville aussi moderne et récente.
Ouais.
Bah, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, pendant la guerre, la ville a complètement été rasée. Donc, c'est la guerre contre le Japon, si je ne me trompe pas.
Oui,
le Japon
donc,
était là.
Pas la Seconde Guerre mondiale comme nous on connaît, pour préciser aux auditeurs.
Oui, non, le Japon.
C'est une autre guerre. Et donc, ils ont complètement rasé la ville et il ne reste pratiquement rien. Donc, dans ce vieux quartier, il y a un peu des anciennes rues, un peu des ruines de ce qui restait.
D'accord.
Et ils ont fait, du coup, une espèce de musée dans... Pas, je ne sais pas si c'est un bunker ou pas, mais ça ressemble un peu à un ancien bunker où dessus, ils ont mis des photos de ce que c'était avant, etc.
D'accord.
Voilà.
Oui, ça a été complètement détruit. Et donc, ce qu'on voit comme étant, entre guillemets, un vieux quartier, c'est du neuf.
Oui. Oui, oui, oui.
C'est du reconstitué.
Alors, la plupart est reconstitué, je pense. Après, il y a
à
quand même des choses qui sont... On sent que c'est des ruines, mais voilà.
Oui, des restes.
Mais
quand même
sinon,
des...
Je pense que 90% de la vie, c'est que du... C'est que du
moderne.
Ah
d'accord.
Oui, que moderne.
Ok. Alors, tout à l'heure, on a parlé de tes expériences culinaires à Chengdu. Et là, est-ce qu'il y en a une que tu pourrais peut-être nous parler ? Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une expérience avec le hot pot ultra épicé.
Hot pot. Hot pot.
Ouais, je suis toujours aussi doué. Hein.
Non, c'est pas ça. C'est que.
Alors,
ça s'écrit.
Revenons-en au hot pot, s'il vous plaît. Passons.
Donc, effectivement, on ne pouvait pas passer à côté du hogo. Donc, c'est.
Comment tu dis?
Hogo. Voilà.
Hogo.
J'espère que je prononce bien.
Oui, je pense.
C'est la spécialité de la ville, hein, tel point qu'à Chengdu, on a mangé des hogo de Chongqing déjà avant même d'aller à Chongqing.
Oui.
Et ça s'exporte même dans les autres villes
d'accord.
de Chine.
Je pense qu'on en trouve effectivement.
Oui,
c'est très populaire comme
ça. C'est ça, mais à la mode de Chongqing, donc, c'est-à-dire avec beaucoup de piment.
D'accord.
Donc c'est quoi ? Décris-nous.
Donc en fait, c'est une grande marmite avec deux bouillons. Donc cette marmite est divisée en deux. Donc d'un côté, on a un bouillon qui est soit champignons, soit poulet, soit d'autres goûts, je ne sais pas tous les goûts, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais généralement il n'est pas épicé ce bouillon, et
d'accord.
l'autre à côté c'est le bouillon, c'est la fournaise, là c'est épicé.
Oui, il faut faire gaffe okay. quoi.
Ah oui, c'est personne non avertie, je déconseille, j'ai essayé un peu le bouillon pimenté, j'ai pas pu résister très longtemps. Heureusement qu'il y avait une autre spécialité, enfin c'est pas spécialité de là-bas, mais il y avait les Bingfen. C'est un dessert à base de gelée et aussi qui est très frais, etc. Donc ça m'a bien sauvée.
Mais on parlera des desserts
la fraîcheur la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça. Oui. Et ben voilà.
Des desserts en gelée qui sont rafraîchissants.
Et donc ça rafraîchit quand on a mangé quelque
Trop
chose de très pimenté.
Ah, oui
c'est ça. Justement, on va se rafraîchir aussi,
oui,
Didier.
Aussi, oui.
On va donner la possibilité à Eloïse de souffler un peu,
d'accord.
de boire un peu.
D'accord.
Avant de la retrouver tout à l'heure, je vous
oui.
propose une pause musicale. Mais en fait, c'est plutôt toi qui nous la proposes,
c'est ça,
Eloïse.
Exactement,
non,
c'est Eloïse.
On a demandé
l'a
à Eloïse, donc c'est quoi, Eloïse, ta pause musicale que tu as choisie ?
Alors, si je ne me trompe pas, c'est Love is Dangerous du groupe T.O.P.
Oui.
Et voilà, c'est un petit hommage à notre organisatrice qui est fan du groupe et qui, en plus, l'agence de ce groupe se trouve à Chongqing. Voilà.
Ah oui, alors
super.
Non, on est carrément dans le thème, quoi. C'est parfait, donc une petite dédicace, en fait.
Donc on écoute T.O.P. Bah, Louise, merci. Moi, j'aime beaucoup. Il va falloir qu'on creuse le filon T.O.P. Didier, parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu de mal à trouver des groupes qui bougent un peu avec des sonorités un peu plus modernes. La C-pop, on s'y était un peu penché, mais peut-être.
Oui.
Il faudrait qu'on cherche des choses plus contemporaines.
D'accord. Okay.
Voilà. Bon, Héloïse, ton voyage après Chongqing, la ville cyberpunk chinoise, tu es partie pour quelle ville et quelle région ?
Alors là, on est parti après dans le Yunnan. Et donc, on a visité Kunming, Lijian et Tali, enfin.
D'accord.
Donc des villes emblématiques de cette superbe région du sud-ouest de la Chine, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, quelle différence avec le Sichuan? Alors, climat, géographie, les villes, quelle ambiance? Est-ce que c'était différent de ce que tu as pu voir à Chengdu et à Chongqing?
Alors, entre les deux régions, j'aurais du mal à dire les différences, mais entre les lieux que j'ai visités, oui, c'était très différent, parce que là, du coup, on partait des très grandes villes pour des villes pas plus à la campagne, mais là, on oublie tous les gratte-ciels, là, on était revenu à maison normale, etc. C'était plus posé, donc
moins haut.
Ça fait plus de villes touristiques classiques, on va dire.
D'accord.
Voilà.
On n'est plus dans les mégalopoles.
Et ce qui change vraiment, je trouve, en tout cas, les différences, on les remarque plus, en fait... En fonction des différentes ethnies qu'on croise quand on parcourt la Chine, c'est à ce moment-là qu'on voit une culture différente, etc. Mmh. Les habits traditionnels qui diffèrent.
D'accord. C'est voilà. Là que ça marque les différences.
Oui, voilà, c'est ça exactement. Parce que sinon, la Chine, c'est le peuple, c'est comme la France. Partout, les peuples sont assez uniformes, etc. C'est vraiment en fonction des typicités des régions, etc.
Des régions, comme on dirait
langage,
la Bretagne,
etc.
Chez nous.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, oui. En fait, c'est assez comparable.
La culture bretonne, si on compare
exactement.
Avec le Pays Basque, la Marseille, enfin, je ne sais quoi.
Oui,
voilà,
c'est
effectivement.
Ça, on peut comparer comme ça. Et donc, oui, tu as rencontré des ethnies différentes des Han, qui est donc
exactement.
Le peuple majoritaire chinois. Tu as rencontré... Alors, au Yunnan, il y en a une sûrement que tu as rencontrée plus particulièrement, ce sont les...
Les Nashi, oui.
Oui,
c'est
les...
ça,
oui.
J'ai vu.
Et donc, à quoi tu reconnais
à la langue et surtout aux vêtements, parce que oui. Moi, de mon point de vue de française, en tout cas, c'est comme ça que je les reconnais.
Oui.
Mais c'est sûr, la langue, c'est instantané. On sait immédiatement qu'ils parlent un chinois qui est, donc mandarin, mm-hmm. qui est très très différent de celui que j'entendais autour de moi, qui est on va dire la langue classique, mm-hmm. le mandarin que tout le monde parle. Mm-hmm. Et après, eux, c'était même mes amis avaient du mal à les comprendre tellement c'est comme une langue dans.
Oui, je crois que c'est une
langue
dans une langue.
Oui, c'est ça, exactement.
Et une culture aussi avec des maisons qui sont différentes. Des maisons avec des décorations particulières. Je sais que c'est un peuple qui des vêtements qui se distinguent des autres et qui le portent quasiment en permanence, en fait.
Oui, oui. Effectivement, ils portent leurs vêtements traditionnels tous les jours. Enfin, c'est des vêtements de tous les jours pour eux.
Bah, c'est ça, en fait.
Et on les reconnaît surtout parce qu'il y a un artisanat traditionnel, les bijoux en argent dans cette région. Et donc, ils ont
d'accord.
beaucoup de bijoux en argent, etc.
D'accord.
T'as fait des photos, j'imagine, Héloïse.
Oui, j'ai beaucoup de photos.
Il faudra que tu nous en envoies, on les publiera sur notre page sur la page Facebook d'Asialogie.
Il n'y a pas de problème.
Bon, alors c'est très bien. Alors du coup, Kunming, c'était rapide. Et puis après, alors parle-nous des autres villes un petit peu plus. Qu'est-ce que tu y as fait? Parce qu'il y avait aussi un but à ce voyage de toute façon. Donc on approche aussi de tout ça. Et puis je crois aussi, si j'ai bien compris, que la géographie n'est pas la même et ça posait quelques problèmes aussi.
Donc oui, du coup, après on est parti à Lijian et Tali. Donc en fait... On dit les noms des villes depuis tout à l'heure, mais il faut quand même préciser que c'est une région qui est très montagneuse.
Ouais.
Donc très montagneuse.
Oui, on continue sur les
montagnes. C'est ça que je voulais entendre.
Et en fait, toutes ces villes sont en altitude.
Ouais.
Donc, on a respectivement, si je me souviens bien, ça fait 1600 mètres, 2400 mètres et 2000 mètres d'altitude à peu près pour toutes ces villes.
D'accord.
Oui,
donc,
c'est peut-être même 1800.
Oui,
ça commence à faire haut. Hein,
Dali, c'est 2000 et
c'est
2000 et quelques.
Et Lijian, c'est la plus
2500,
haute. Donc,
2500 mètres d'altitude. Et sans compter... qu'au-dessus, il y a des montagnes de 5000 mètres.
C'est ça.
Oui, mais on ne les a pas visitées.
On n'est pas au sommet, on est loin d'être au sommet.
2500 mètres tout le temps, on n'a pas vraiment l'habitude.
Oui,
quoi.
Mais on est entouré, c'est ça qui est...
Ah oui, de montagnes, plus hautes encore.
Parce qu'en fait, on est à 2500 mètres, mais il y a de très hautes montagnes.
Oui, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte qu'on est aussi haut. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous a fait défaut, parce qu'on avait un petit peu oublié cette histoire de mal des montagnes.
Oui, donc il y en a qui ont eu le mal des montagnes parmi tes amis.
Oui, il y en a un qui a eu pas mal de symptômes, donc lycée, mal de tête, etc. Voilà, parce qu'on manque d'oxygène tout simplement.
Bah oui.
Et
il faut du temps, c'est tout, mais on l'a pas forcément.
Nous, les trois filles, nous, ça allait. Hein, au final, on n'a pas eu beaucoup de... Oui, oui, on a été malade une journée, on a eu mal à la tête, et puis après, c'était fini. Voilà,
bon, c'est, bah, c'est plutôt pas mal.
Mais il faut être progressif, voilà.
Oui, c'est
un conseil, il faut soyez progressif.
Oui, peut-être commencer d'abord par Thalie avant de Lijian.
Oui, oui.
Il ne faut pas être trop brutal pour ce genre de...
Et donc, tes plus beaux souvenirs de Lijian, Héloïse, on a très peu de minutes maintenant, donc il va falloir aller à l'essentiel.
D'accord.
Sur les choses qui t'ont le plus marqué de ton voyage, on te laisse la parole.
Eh bien, pour Lijian, je dirais que c'est la balade en montagne. Donc, on est allé proche du village. Et donc, on a fait une petite balade en montagne, à cheval, etc. On a visité cette montagne, c'était magnifique.
C'était magnifique. Tu as trouvé ça magnifique, Lijian? C'est une très jolie ville hein, qui est traversée par des canaux, un peu comme une petite Venise.
Oui, oui, c'est vrai.
Ah, et c'est des maisons, dans mon souvenir, des maisons traditionnelles avec des lanternes partout.
Oui, ça, tout à fait, c'est exactement ça. C'est très traditionnel. C'est...
Ah, ça doit être sympa. D'accord.
Et sur le plan culinaire, là-bas, qu'est-ce que tu as découvert?
Ce que j'ai découvert, ils adorent les champignons. Le Yunnan, c'est la spécialité, c'est les champignons, ça donne bien, j'adore. Donc, c'était... Puis d'autres choses un peu plus exotiques, comme les travers de porc à la menthe, hein, qui baignent dans autant de porc que de menthe. C'est...
Ah oui.
Voilà.
D'accord. C'est un peu méridional, du coup, un peu oriental aussi. Enfin, oriental au sens
moyen-oriental. Oui, si, je trouve que oui, ça se rapproche sur certains points, oui.
D'accord, ouais. Ok.
Et donc, Dali, oui, comme disait Didier, tu arrivais au terme de ton voyage, enfin, du moins par rapport aux objectifs, de faire un shooting photo. Raconte-nous tout ça.
Alors, donc, le shooting photo, donc, c'était par une agence. Donc, et après, en fait, il y avait plusieurs lieux dans la journée. Donc, au total, il y avait 4 lieux différents. Le jour d'avant, on est allé faire les essayages. Donc, la mariée a essayé toutes ses robes, etc. Le marié a essayé aussi ses tenues. Ils ont décidé des lieux. Et après, le lendemain, c'était enchaînement, lieux, pause, etc.
Oui,
et après, encore le lendemain, donc, ils ont pu voir toutes les photos. Il fallait sélectionner photos pour faire l'album. Il y a aussi les cadres photos. Enfin, il y a plein de choses
qu'on
peut commander.
C'est la totale de chez Total.
Là, on peut faire toute option, etc. Donc, comme
oui, c'est plus difficile. En France, c'est beaucoup plus cher.
Ah, je pense.
Ah oui, c'est 3 fois plus cher. Voilà.
Trois fois plus cher.
Ah oui, à peu près.
Alors, qu'est-ce qu'on doit ramener de son voyage en quelques mots, Héloïse, parce qu'on arrive à la fin de notre émission.
Eh bien, qu'est-ce qu'on doit ramener? Je dirais, on peut ramener certaines spécialités culinaires. Hein,
oui,
comme
nickel.
Les champignons séchés, les fleurs, etc. Le thé, surtout, c'est l'incontournable, c'est le thé.
Oui, le thé. Parle-nous du thé. Quel est le thé le plus célèbre de Chine, de cette région-là?
Ah, c'est le thé pu'er. Donc, c'est un thé qui est noir et assez puissant quand même. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment incontournable. Vous devez absolument goûter et ramener.
Et d'accord. Donc, c'est les fameuses galettes de thé. Ça coûte très cher. Tu peux nous dire le prix auquel on le trouve en Chine et celui en France en comparaison. Donc, ces merveilleuses et belles galettes de thé noir.
Donc, les galettes, c'est à peu près 375 grammes, si je me souviens bien de ma galette, parce que effectivement, j'en ai acheté une.
Oui.
Et donc, pour nos auditeurs, je vais comparer avec prix au kilo. Donc la galette, elle m'a coûté à peu près 130€ du kilo. Et en France, c'est plus de 200€ du kilo.
Et Louise,
ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
C'est fini, Asialogie.
Ah, c'est trop court.
Faudra que tu reviennes l'année prochaine. C'est trop court. Chers amis, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine. On vous souhaite une belle semaine. Écoutez-nous en rediffusion et en podcast.
Bien sûr.
Sur Radio Alpa.
Quand
évidemment.
Vous voulez, en fait.
À la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. On vous fera une surprise.
Merci.
Salut.
En tout cas pour ce partage. À bientôt.